de retour sur le podcast Super Croissance en mode discussion d'affaires avec Jonathan Léveillé, comme à chaque semaine. Et aujourd'hui, Jonathan nous a préparé des nouvelles croustillantes allant de l'intégration sur TikTok du gouvernement américain. Et oui, vous l'avez bien entendu, à d'autres nouvelles du monde des affaires. Jonathan, comment ça va aujourd'hui?
En pleine forme, ça va super bien. J'imagine que toi aussi, Antoine.
Ben oui, après une retraite comme on a vécu, on est revenu au travail, ressourcé, on a des idées, on est prêt à passer à l'action. Donc oui, ça va bien. Et je pense qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on part que la Terre arrête de tourner. Il y a eu beaucoup de nouvelles. Peut-être que tu pourrais commencer avec celle que tu avais amenée à mon attention.
La première qui m'a énormément surpris, on a parlé longtemps dans les podcasts, dans les derniers trimestres, comme quoi que le gouvernement des États-Unis se retournait un peu contre TikTok, qu'ils essayaient de bannir TikTok. Et même au Canada, le gouvernement canadien a dit ben les gens du gouvernement ne peuvent plus utiliser TikTok sur leur téléphone qui est payé par l'État. Eh bien, Biden, aux États-Unis,
le paradoxe,
vient de rejoindre TikTok en vue de l'élection 2024. Donc, Joe Biden qui a fait son premier TikTok à vie de 26 secondes où il parle légèrement de politique et de football. Donc, ça s'est fait pendant le Super Bowl. Donc, à 81 ans, Joe Biden, premier TikTok qui est fait à vie. Et quelle ironie derrière tout ça, alors que, comme je me répète, le gouvernement des États-Unis essaie de tout faire pour ralentir TikTok ou du moins dire que c'est un problème à la sécurité nationale. Et là, de l'autre côté, on a le président des États-Unis qui est maintenant actif sur la plateforme TikTok. Je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine, toi, de ton côté, mais c'est un message ultra contradictoire à deux vitesses, mais qui surtout vient confirmer l'impact de cette plateforme-là sur les élections, sur la capacité de rejoindre un public, surtout les jeunes, qui est énorme. Et je fais une parenthèse, moi, dans ma tête, TikTok, c'est généralement seulement les jeunes qui vont l'utiliser. Et je suis tombé sur une statistique, Antoine, la semaine passée. Quel âge, tu penses, l'utilisateur moyen de TikTok à l'échelle planétaire?
Ben là, vu que tu me l'as déjà amené comme ça, on va dire peut-être quoi? 28, 29 ans?
C'est 40 ans, Antoine.
Oh, wow!
Et ça m'a vraiment surpris, honnêtement, de voir ce chiffre-là, parce que dans ma tête, je connais personne 40 ans et plus pratiquement qui l'utilise. Je connais énormément de gens en bas de 30 ans, beaucoup en bas de 20 ans. Mais selon la stat que moi j'ai vue, et là, comment, est-ce qu'elle est bonne ou pas? Bonne question. Mais ça, c'est assez impressionnant. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, toi, que Joe Biden soit maintenant en ligne sur TikTok. Je serais curieux de t'entendre.
Ouais, ben écoute, je pense que si on regarde, puis en toute transparence, j'ai pas envie de rentrer sur des opinions politiques. Je pense qu'on a toujours bien fait sur le podcast de sortir ça un petit peu de notre champ de discussion. Mais d'un point de vue externe, ce qu'il faut quand même être d'accord, c'est que oui, Joe Biden, il y a un travail en ce moment, un petit peu de marketing à faire pour la prochaine année, parce qu'on le sait, on est dans une année électorale aux États-Unis. Et ben, les sondages vont pas tellement bien pour M. Biden en ce moment. Donc, clairement, il doit essayer d'aller chercher un maximum de distribution avec une clientèle qui peut-être habituellement n'arrive pas à aller chercher. Donc, je peux comprendre l'idée, je peux comprendre l'intention. Maintenant, effectivement, TikTok, et pardonnez-moi le terme que je vais utiliser ici, s'est fait griller face aux instances américaines dans les derniers mois pour un peu le contrôle de l'information qu'ils pouvaient en faire, comme quoi que les fils d'actualité des gens qui utilisaient TikTok aux États-Unis n'étaient pas le même que les gens qui utilisaient TikTok en Chine, par exemple, que TikTok était contrôlé par l'État chinois et qui finalement était littéralement fait pour manipuler un petit peu l'opinion occidentale. Donc, ça, c'est des choses qui ont été dites au CEO de Biden. Ça, c'est des choses qui ont été dites au patron des gens de chez TikTok. Donc, après de voir le gouvernement américain s'intégrer là-dessus, effectivement, le terme est bien utilisé, Jonathan. C'est totalement ironique, mais ça démontre que quand une plateforme est capable d'atteindre, je pense qu'ils ont passé le milliard d'utilisateurs, TikTok, je ne sais plus exactement le terme exact, tout le monde doit y être. Tout le monde doit y être. Il y a une portée impressionnante, que ce soit sur TikTok, sur Facebook ou sur Instagram. Il faut se rendre où est-ce que nos clients sont, il faut se rendre où est-ce que nos électeurs sont. Et connaissant l'information qu'ils ont accès, clairement, ils ont dû se rendre compte que ça devenait inévitable de s'y rendre. Donc oui, ironie, mais d'une manière pragmatique, je pense que ça devenait peut-être inévitable pour eux pour, bien entendu, se préparer pour l'année électorale aux États-Unis.
Et on parle de 1,29 milliard de personnes présentement actives mensuellement à l'échelle planétaire. Si on prend en compte qu'il y a, c'est pas tout le monde sur la planète qui a accès à Internet, donc 5,3 milliards de personnes qui ont accès à Internet, c'est pratiquement un quart de la population mondiale qui est sur TikTok. Et ça, c'est sur une tendance très forte de croissance devant nous. Fait que fort à parier que d'ici 12, 24 mois, ça va probablement être la moitié de la population mondiale. Tu as peut-être les chiffres, Antoine, pour Facebook, le groupe Meta et compagnie, je pense que c'est la moitié ou le trois quarts de la planète. Est-ce que c'est...
Ah, Facebook, si on regarde les daily users, ils ont sorti leurs états financiers la semaine dernière. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais peut-être que ça pourrait même être intéressant un peu de parler des états financiers des différents gros joueurs. Brièvement, peut-être juste donner un peu de contexte aux gens qui nous écoutent, puis on va juste rester avec Meta, mais pour répondre à ta question, là, Joe, Meta, au moment où on se parle, dans toute leur famille, là, littéralement, d'applications de manière quotidienne, 3,19 milliards. Et de manière mensuelle, 3,98 milliards de personnes. Donc, ça donne un petit peu le tempo. Facebook seulement, c'est 2,11 milliards là, de manière quotidienne. Donc, tu sais, ça donne le tempo de se dire que de manière mensuelle, tu as une personne sur deux qui utilise les plateformes de Meta dans le monde. C'est pour donner un petit peu de contexte à tout ça. Et peut-être juste pour rebondir là-dessus, parce que tu m'ouvrais une porte que je ne pouvais pas refermer, Jonathan, parce que tu sais à quel point que j'aime Meta. Pour les gens qui ne le savent pas, le quatrième trimestre, Meta a généré 40 milliards de revenus, ce qui est énorme. Et la grosse différence, Joe. Et juste pour donner un peu de contexte, l'année dernière, au quatrième trimestre, Facebook avait généré 32 milliards. Donc, quand même, c'était des très bons chiffres, mais seulement, bien entendu, dans un contexte d'une entreprise comme Meta, 4,6 milliards de profit net. Et ça donnait un taux de pourcentage qui était beaucoup plus bas qu'à l'habitude. Et cette fois-ci, sur le 40 milliards qu'ils ont généré de revenus qu'ils ont fait, 14 milliards de profit net. Donc, ils ont été capables de faire plus que fois 3 sur leurs bénéfices nets à la fin de la journée pour simplement une augmentation de 8 milliards du chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même intéressant de voir cette dynamique-là où est-ce que Mark Zuckerberg parlait de l'année au complet, de l'année de l'efficacité. Eh bien, force est d'admettre qu'elle s'est matérialisée en année de profitabilité, cette efficacité-là. Donc, je trouvais ça intéressant de le mentionner. Je referme la parenthèse ici. Je t'ai donné tes chiffres pour Facebook, je t'ai donné tes chiffres pour TikTok. Et ce qu'on disait essentiellement, c'est que quand il y a autant de gens sur ces plateformes-là, eh bien, t'as pas le choix de t'y intégrer, peu importe la dynamique politique ou pas. Bref, peut-être ça va se retourner contre lui, mais j'imagine que c'est... Les équipes internes politiques ont fait des recherches, ont fait des calculs à savoir si, sur le moyen terme, ça allait pouvoir davantage le bénéficier ou pas. Parce que peut-être juste pour rebondir avec notre actualité locale, c'est, je pense, François Legault et la CAQ, il y a une ou deux semaines de ça, qui ont recommencé à faire des publicités sur Facebook. Et ils avaient été les premiers l'année dernière à boycotter Facebook et à dire qu'il faut arrêter de le faire. Mais c'est un petit peu la même dynamique. C'est-à-dire, politiquement, c'est bon de dire non à TikTok, non à Facebook, mais dans le pratico-pratique, ton message doit être entendu par ton client ou par ton électeur. Eh bien, ils n'ont pas le choix. Ils sont pris avec ces plateformes-là, ils doivent les utiliser.
Parlant de la CAQ, as-tu vu le fail qu'ils ont fait au niveau publicitaire dans les dernières semaines?
Non,
je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ils ont tourné une vidéo qu'ils ont publicisée et à la fin, François Legault, le point sur la table, dit « il y a quelque chose qui ne marche pas », puis là, il est fâché. Et la pub s'arrête comme ça, mais il y a un petit moment où l'écran suivant, c'est écrit en tout petit « cette pub a été payée par », puis en gros, c'est écrit « votre gouvernement ». Mais quand on écoute la publicité régulière, c'est « M. Legault qui tape, il y a quelque chose qui ne marche pas », et à l'instant même qui dit ça, c'est écrit en gros « votre gouvernement ».
Oh non!
Et ça l'a fait la risée sur les médias sociaux, dire il y a quelqu'un qui l'a échappé dans une compagnie publicitaire en quelque part. Mais c'est honnêtement un fail. Vous irez voir ça, est probablement disponible sur TikTok et sur YouTube. Oh, ça vaut la peine d'aller voir. Il y a quelqu'un qui a perdu sa job en quelque part, c'est ça.
Malheureusement.
Je resterai sur l'aspect politique sans donner nos opinions, mais pendant qu'Antoine et moi, on était en Californie, on a reçu la notice qu'un grand podcasteur aux États-Unis, Tucker Carlson, avait interviewé Vladimir Poutine. Et moi, j'ai été extrêmement surpris que Poutine sorte publiquement. Et oui, j'ai écouté. Ouais. Je suis rendu aux trois quarts de l'entrevue. Est-ce que tu l'as écouté de ton côté, Antoine?
Ah, 100%. Je l'ai écouté le jour même. Je voulais comprendre un petit peu ce qu'elle allait se dire.
Je serais curieux de t'entendre sur quelles étaient tes attentes par rapport à ce podcast-là et avec quoi tu ressors. Parce que moi, c'est complètement dehors de mes attentes que j'avais en tête. Je serais juste curieux de t'entendre parler là-dessus.
Ben, de un, je pense que ce qui est important de mentionner, c'est que contrairement à ce que les gens pensent, Poutine avait donné des entrevues à des journalistes dans les dernières années, simplement pas des journalistes américains. Donc moi, j'avais déjà écouté des entrevues dans les derniers mois. Il avait donné une entrevue à un journaliste chinois. Il avait donné des entrevues à d'autres journalistes dans le monde, mais pas à des journalistes occidentaux. Donc ça, je pense que c'est important de le mentionner. Puis oui, clairement, ça faisait du sens que ce soit Tucker Carlson qui soit choisi un petit peu pour l'interview. interviewé parce que Tucker Carlson, pour les gens qui ne le savent pas, n'est plus à l'emploi d'aucun réseau grandiose aux États-Unis, que ce soit CNN, CNBC ou Fox News. Il travaillait chez Fox News. Il est rendu un indépendant. Donc, il n'a pas un agenda précis comparativement à des grandes chaînes qui habituellement ont des agendas précis. Surtout aux États-Unis, où est-ce que la plupart des grandes chaînes sont très, très politisés. Fox News vers la droite avec le Parti républicain et CNN qui est davantage orienté au niveau des démocrates. Et c'est dit, c'est compris. Donc, lui arrivait davantage avec une posture d'indépendant et c'est sûr et certain que Tucker Carlson, tu l'écoutais, il n'a jamais été tellement pour l'aide que les États-Unis faisaient à l'Ukraine. Donc, pour quelqu'un comme Poutine, ça faisait beaucoup plus de sens d'avoir une personne comme lui qui allait porter un message, qui allait faire une entrevue, que quelqu'un qui allait arriver et l'accuser pendant des heures et des heures et des heures de tout ce qu'il fait et à quel point c'est abominable. C'est très comprenable que la Russie ait choisi un joueur comme Tucker Carlson. Donc, ceci étant dit maintenant du choix de la personne qui a été prise, qu'est-ce que j'ai pensé de l'entrevue? Ben, de un, je pense que c'est intéressant d'avoir ces informations-là. Tu sais, encore une fois, peu importe où est-ce qu'on se situe dans l'échiquier politique, je pense que c'est bon d'avoir, d'écouter la liberté d'expression, d'écouter ce que les gens disent, peu importe que les gens soient des démons, comme malheureusement certaines personnes dans le monde peuvent l'être. C'est bon d'écouter au moins un aperçu, une conversation qu'il peut avoir pour comprendre des choses, pour comprendre des choses. Donc moi, je suis vraiment arrivé dans un mode d'ouverture quand j'ai écouté cette entrevue-là. Et si après on regarde l'impact que ça a eu, encore une fois, en termes d'avantages d'écoute, sur Twitter, il y avait des centaines de millions de views. Sur YouTube, il est rendu à des dizaines de millions de views. C'était quelque chose qui était attendu. C'était quelque chose que les gens voulaient voir. C'était quelque chose qui devait se dérouler. Et maintenant, après, on peut se le dire, si tu écoutes bien l'entrevue, Vladimir Poutine a clairement été capable de contrôler la narrative de A à Z et de raconter l'histoire et de dire à quel point que, je veux dire, c'était simplement normal que la Russie attaque l'Ukraine parce que l'Ukraine n'est pas un pays. Il faisait même pas mention de la souveraineté de l'Ukraine, littéralement. Donc, clairement, il a été capable de contrôler sa narrative de A à Z. Les 30-40 premières minutes, je pense que c'était un monologue, littéralement. Je me demande même si Tucker Carlson a été capable de placer deux mots pendant ces 30-40 minutes-là. Donc, encore une fois, si on analyse pas le fond, parce que c'est pas le but du podcast, mais davantage le format, tout ça, un grand orateur, Poutine, qui contrôle sa narrative, était capable de bien choisir la personne qui allait l'interviewer pour exactement ce qu'on vient de dire, pour contrôler cette narrative-là. Un journaliste qui est davantage avec une grande chaîne aurait, à mon avis, pas laissé Poutine s'échapper comme ça et de contrôler sa narrative et de faire croire à tout le monde que c'était normal ce qui est en train de se dérouler. Donc, c'est mon opinion, mais j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant, fascinant même d'avoir une entrevue de la sorte.
De mon côté, le premier point, c'est ça prouve énormément la décentralisation des médias, à quel point c'est rendu incroyable, parce que ce genre d'entrevue-là n'aurait jamais eu lieu oui. S'il n'y aurait pas une décentralisation par les médias et
bien sûr
par toutes les plateformes disponibles. Ça va servir à beaucoup de gens aux États-Unis, dont Elon Musk. Ça a donné beaucoup de nouveaux usagers sur sa plateforme puis beaucoup de views au final. Ce qui m'a frappé, moi, au départ, que je m'attendais pas du tout et qui, un coup qu'on se met à l'écouter, c'est super évident, c'est que je me suis dit, ça va être une entrevue en anglais. Et non, c'est une entrevue bon, qui est pas en anglais, mais qu'il y a un traducteur ouais. Qui est là en anglais.
Ça doit pas être facile.
Honnêtement, ça m'impressionne la personne qui traduit en temps réel et qui est capable de transmettre le message et le non-verbal qui vient avec. Moi, je me dis clairement, la personne savait c'était quoi le message qu'il avait à traduire ou du moins le fond du message en arrière, où il a traduit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres messages de Vladimir Poutine. Il savait où ce que Vladimir Poutine s'en allait parce que c'était extrêmement fluide, comme si c'était un speech que lui-même, le traducteur, faisait en temps réel. Donc, c'est fou comment le cerveau s'adapte, par contre, après un certain temps. Au début, ça me dérangeait qu'il y ait une traduction en temps réel, puis après ça, c'est devenu ultra naturel par la suite. Mais ça m'a frappé, puis j'ai peut-être mal compris, Antoine, tu pourras peut-être me corriger, mais au début, Vladimir indique qu'il veut prendre quelques secondes pour mettre un 30 à 60 secondes pour mettre la table, et ça se transforme en 30 à 60 minutes.
Minutes, ouais.
Et là, ça n'a aucun sens. C'est un monologue de cours d'histoire, et constamment, Tucker Carlson essaie de ramener, de dire oui, mais en quoi c'est ça a rapport avec la discussion d'aujourd'hui, en quoi ça a rapport avec le fait d'attaquer l'Ukraine. Et là, il est sur un monologue. Et intéressant, par contre, au début, qu'il mentionne qu'il ne s'attendait pas à ça, mais que selon lui, il pense que Vladimir Poutine est convaincu dans sa tête à lui qu'il a raison et que sa vision du monde est la vérité. C'est pour ça qu'il a décidé d'aller chercher cette voie-là. Donc, c'est quand même intéressant d'entendre c'est quoi le jeu psychologique derrière tout ça. Et moi, ce que j'en sens, c'est que Vladimir Poutine est 110% convaincu que sa vision des choses et la réalité que lui pense a est la sainte bénite vérité au final. Et c'est ça qui est spécial, de voir à quel point il est convaincu et qu'il essaie de convaincre. C'est vraiment quelque chose. Moi, c'est l'élément clé que je ressors derrière tout ça.
C'est épeurant.
C'est
excessivement épeurant de voir à quel point qu'un homme autant puissant vit dans une distorsion de la réalité autant impressionnante que ça. Puis tu sais, je tiens à le dire, là, je pense que c'est totalement horrible ce qui s'est déroulé, ce qui continue de se dérouler à cause du gouvernement russe, à cause de Vladimir Poutine, puis de le voir ne pas être capable de pouvoir prendre le tort sur quoi que ce soit et d'expliquer que c'est tout normal, ce qui s'est déroulé, ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Et je pense que c'est ça qui est le plus choquant. C'est que c'est tellement malheureusement un bon orateur que si tu n'es pas assez informé sur une situation comme ce qui s'est déroulé en Ukraine depuis le mois de février 2022, tu peux tomber dans une analyse comme quoi que ce qu'il a fait était compréhensible. Donc, faut simplement faire attention à ça. Pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas écouté l'entrevue, informez-vous bien avant parce que malheureusement, il y a des gens dans le monde qui sont très bons manipulateurs, sont capables de convaincre beaucoup de gens et quand on est mal informé, je pense que ça peut être un petit peu un enjeu. Je reviens un petit peu au niveau du format ici que je trouve qui est intéressant. Je ne crois pas que quand l'entrevue était faite, la traduction qu'on entend est la traduction que Tucker Carlson avait en direct. Je pense qu'il y en avait deux qui étaient différentes selon moi, parce que bien entendu, celle qu'on a entendue dans l'entrevue est une traduction qui était parfaite. Donc selon moi, l'information et la traduction que Tucker Carlson et que Vladimir Poutine avaient dans leurs oreilles étaient différentes que ce que nous, on avait en tant qu'auditeurs.
Donc, elle aurait été retravaillée. C'est pour ça que le résultat est assez impressionnant. Ça se ferait du sens, ce que tu mentionnes. Non?
Selon moi, parce que de toute façon, si on fait l'analyse, un devait traduire en russe et l'autre devait traduire en anglais. Donc, je ne pense pas que c'est la même chose que nous, ce qu'on avait, qu'eux, ce qu'ils avaient. Donc, ça, c'est un point à mentionner. Mais peut-être pour terminer un peu sur ce point-là et qui fait un peu mention au niveau des médias, et ça, je pense que c'est un des points business qui peut ressortir de la discussion ici qui est intéressant, c'est de se dire à quel point que, et on en a déjà parlé sur le podcast récemment, des lignes de distribution, mais qu'un joueur peut arriver et se lancer en mode direct, parce que c'est ça qui se déroule maintenant, on n'a plus vraiment besoin d'avoir un middleman au milieu comme une chaîne de télévision qui va nous supporter, et on s'adresse directement au consommateur et on peut avoir autant de portée, c'est ce qui se déroule un petit peu avec Tucker Carlson et plein d'autres journalistes et plein d'autres créateurs de contenu dans le monde. Donc, c'est vraiment un point qui me fascine de plus en plus que j'analyse ça, c'est de voir à quel point tu peux grandir une ligne de distribution rapidement quand tu es quelqu'un qui est connu, quand tu es quelqu'un qui a du talent également. Vraiment, c'est des choses assez impressionnantes qui ressortent là, à ce niveau-là.
Et puis, je trouve ça intéressant, le fait que tu rapportes ça aux entreprises. C'est dans nos entreprises, l'importance d'utiliser les différentes plateformes qui sont disponibles. TikTok, peut-être le podcast.
Bien sûr.
Mais vous trouvez ce qui a le plus de portée ou d'efficacité pour vous. On vit dans un air qui est incroyable, qui a justement une décentralisation des médias qu'on peut vraiment mettre à profit dans nos entreprises. Et ces deux cas-là qu'on parlait de TikTok avec Joe Biden ou de Vladimir Poutine qui utilise des podcasteurs qui sont indépendants, mais ça, c'est tout accessible dans nos organisations pour devenir avec une empreinte plus grande dans ce qu'on fait, comment qu'on le fait, puis d'attirer à ce moment-là des leads au final.
100% d'accord. D'autres nouvelles qui ont marqué ton attention, Jonathan?
Prochaine nouvelle, on parle du système d'élection au Québec. Donc, encore politique, mais là, ça va être plus technologique. Il va avoir, c'est une nouvelle qui a passé un peu sous le radar, qui date de 2-3 semaines, qu'il y a 21 villes qui vont essayer le vote par Internet en 2025. Donc, il y a beaucoup de villes qui arrivent en processus électoral au niveau municipal. Donc, il y a eu, le gouvernement a lancé l'invitation à des villes pour participer à ce projet pilote-là. Donc, il va y avoir maximum 10 % des électeurs des villes participantes qui vont être appelés à voter de manière électronique. Donc, on parle d'environ 300 000 Québécois qui vont pouvoir tester le système. Donc, c'est pas l'entièreté des gens d'une ville qui vont avoir cette possibilité-là. Ils n'ont pas encore dévoilé qui allait être le fournisseur technologique derrière tout ça. Ça devrait le faire à l'été. Je me croise les doigts tant que payeur de taxes que ça ne sera pas encore nos fameux amis à trois lettres de chez IBM qui ont lancé dans le mur d'autres projets du gouvernement, dont Phoenix au fédéral. Et ça clique également, mais je me croise les doigts que ça sera pas la même gang parce que sinon, on va sûrement se ramasser avec quelques enjeux au final. Donc voilà.
Interesting. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. C'est toujours intéressant de voir les projets technologiques parce que c'est ça, je regardais les projets technologiques publics. C'est l'application Arrive Cannes, qui était l'application canadienne. Il y a eu un article qui sortait dans les journaux. C'était supposé coûter 88 000 $. Je pense qu'on est rendu à quoi? 80 millions de $ à peu près dans ces eaux-là.
Ça n'a aucun sens, Antoine. Puis tu sais, moi, je suis en tech de mon côté. Quand je regarde ces choses-là passer, ça n'a aucun sens. C'est une totale mauvaise gestion. Ça peut, un projet peut déraper à un certain niveau, mais de là, de faire fois 1000 du budget initial, ça fait pas de sens.
Ça n'a aucun sens,
Et là, je fais une petite parenthèse. Pour ceux qui nous entendent souvent, j'anime un podcast qui est dédié justement au développement de solutions technologiques. On a lancé cette semaine un épisode qui est intéressant sur le sujet qu'on parle. Le titre, c'est « Les 6 comportements qui vont inévitablement faire déraper le budget de vos projets technologiques. » Donc, les 6 comportements clients. Parce que on a une bonne discussion ici à l'interne dans les derniers mois de dire quand un partenaire comme nous évalue un projet, dans l'offre qu'on fait, on prend pour acquis que le client va bien se comporter. Et on a identifié 6 comportements dans des cas réels qui peuvent faire déraper ça, allant du dragon à deux têtes, donc il y a 2 décideurs du côté client, à qu'il n'y a pas une bonne communication du côté client pour amener les gens dans le projet, pour faire bien démarrer le projet. Donc, allez voir ça sur notre podcast, le podcast Pivot. On pourra mettre peut-être les notes dans le lien de l'épisode. Si vous avez un projet techno qui s'en vient devant vous et que vous l'essayez d'éviter des dérapages de budget comme on parle à l'instant, ben inspirez-vous d'un petit peu ce que vous allez entendre là-dedans. Nous, on s'en sert avec nos clients en début de projet de descendre ces 6 comportements-là pour dire voici ce qu'on s'attend de vous pour éviter que la facture gonfle pour rien. Et on fait un suivi en milieu et en fin de projet pour s'assurer qu'ils respectent les bons comportements qui sont tout à fait logiques, mais que souvent le client ne sait pas que lui-même met du sable dans l'engrenage. Donc, fort à parier qu'Arrive Cannes, l'on pointe le fournisseur du doigt. mais il y a une partie qui vient du client, qui est le gouvernement de l'autre côté, qui a pas bien fait ses choses, ou du moins que je serais curieux d'évaluer dans ces 6 comportements-là combien de, probablement 4 ou 5 que le gouvernement a malheureusement adopté. Qui fait que la facture a fait un effet de boule de neige au final.
Ah, c'est triste de voir ça, mais bon, écoute, espérons que les prochains, ce soit Open Mind qui soit choisi pour créer l'application. Qui sait, qui sait? Je ne sais pas si c'est des projets que vous pourriez faire, mais bon, je serais plus en confiance ici que vous ne feriez pas fois 1000 sur le budget initial.
Absolument, c'est le genre de projet qu'on pourrait amener à succès.
Bon, ben, si le gouvernement nous écoute, vous savez qui aller voir. Joe. On a des choses, d'autres choses où ça faisait le tour pour aujourd'hui.
C'est complet pour aujourd'hui, Antoine.
Bon, bien, toujours un plaisir de discuter avec toi. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode d'Hypercroissance.